السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du samedi 3 Jamad al-Awwal 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 6 avril mercredi. نعم مرحبا بكم en cette soirée du mercredi 3 Jumada 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 6 avril 2011, bi'idhnillahi ta'ala. On va commencer, inshallah ta'ala, ces quelques avantages qui se trouvent dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen qui s'appelle Ahkamul Janaiz. Ahkamul Janaiz, les rites des funérailles. Ce sont des choses très, très intéressantes à savoir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sera maximum deux cours, inshallah ta'ala. Aujourd'hui, c'est le premier cours, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, puisqu'il n'y a qu'un seul tome, donc je citerai seulement les numéros des pages. Avant cela, est-ce que le son est clair, Muslim? Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taïb. En même temps, qu'est-ce que j'allais dire? Non, il faut surveiller, il y a quelqu'un qui peut-être va rentrer, il s'appelle, A'udhu Billah, il s'appelle Kafir. Comme ça il s'appelle, A'udhu Billah, Al-Kafir, A-L-C-A-2-F-I-R. Déjà, son nom, ça suffit. Là, il est rentré trois fois la fois passée, j'ai pas pu le bouncer, parce que je peux pas en même temps faire le cours et bouncer les gens. Là, il faut le surveiller pour le bouncer, il a un salon sur le... sur la section Europe, yani, qui vraiment ne yani, peut même pas citer yani, le nom de son salon, l'Iyadu Billah. Le pseudo, Anikotlek, El Kafir. Ça, je ne suis pas sûr comment ça s'écrit, Asma. Mais ce qui serait bien, ce n'est pas de le bannir directement, non. Je préfère qu'il rentre d'abord, qu'il se sente, qu'il se voit, qu'il est bossé, ensuite on le bannit. Enfin, laisse-le rentrer d'abord une fois. Mais surveille, quand je fais le cours, surveille la liste. Barakallahu fik. Donc, on va commencer par le premier avantage qui se trouve à la page 20. Page 20, tome numéro 1. Le Cheikh Rahimallah a dit que lorsque la femme utilise, par exemple, une opération, par exemple, chirurgicale, et c'est, par exemple, il va dire ici, à cause de, il a dit, si c'est esthétique, il a dit c'est haram. Non. Mais il a dit, si maintenant, c'est à cause d'un défaut qu'il y a. Il a dit, par exemple, comme une femme ou là, ou même peut-être un homme, qui a des trous dans son visage. Il a dit, celle-là, elle peut yani, subir une opération, par exemple, à cause des trous. Il a dit, ou bien des plaques noires pour un visage qui est blanc. Des plaques noires pour un visage qui, de nature, est blanc. Et des choses pareilles, il a dit, dans ce cas, bien sûr, on peut faire une opération chirurgicale. Et il a ajouté, bien sûr, dans d'autres livres, il a ajouté que, de même pour, par exemple, le nez. Quelqu'un qui a un nez qui est vraiment, par exemple, gros ou grand, ou Par exemple, quelqu'un qui a des oreilles vraiment tirées, vraiment tirées. Donc, tout défaut qui yani, est remarqué au point où les gens nous remarquent, ou bien rient de nous, ou bien parlent de nous, ou bien, dans ce cas, l'opération est permise, pas dans le sens que la personne veut s'embellir, mais dans le sens que la personne veut quoi? Veut enlever le défaut qu'elle a, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un, on lui avait coupé son nez dans une bataille. Il a eu le nez coupé et il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de se faire construire un nez en or. Un nez en or. Vous savez que l'or, ça reste pour l'éternité. Non. C'est pas comme les autres métaux. C'est pour ça que, donc, de ce hadith, regardez comment qu'il va rester comme ça son nez. C'est pas possible. Alors, puisque le prophète Hassan lui a permis de monter un nez en or, de ce hadith, les savants ont pris les avantages que je vous ai donnés. Ça, c'est la page 20. À la page 21, le cheikh rahimahullah dit: وأما استعمال بعض الأعشاب والمواد الكيميائية لتغيير لون البشر البياض. Il a dit: en ce qui concerne le fait d'utiliser certaines herbes, ou bien d'utiliser, il a dit, certains, disons, médicaments chimiques. Comme des cachets, comme l'aspirine, etc. Non, chimique, yani, qui a rapport à la médecine. Il a dit, utiliser des trucs chimiques ou bien des herbes pour changer la couleur de la peau. Pour changer la couleur de la peau. Par exemple, de la couleur noire à la couleur blanche. De la couleur mat à la couleur blanche. Et comme ça, ou bien le contraire. Il a dit, فإن كان التغيير ثابتا ولا يزول فهو حرام ومن كبائر الذنوب. Il a dit, si maintenant, en buvant ou là en mangeant certaines herbes, ou bien en prenant certains médicaments, la couleur de notre peau va changer définitivement. Pour de bon. Elle va changer définitivement. Il a dit, dans ce cas, c'est haram. Ensuite, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Il a dit, car c'est plus grave. C'est plus grave. Non? Car cette personne a vraiment changé la création et la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est plus grave que ce que fait celle qui s'épile ou bien celle qui se tatoue. Donc c'est plus grave que cela. Mais si maintenant le fait de changer la couleur de la peau la yathbut ne reste pas à vie bel yazoul, mais par contre c'est juste pour une durée, une demi-heure, une heure, 3 jours. Comme quoi, par exemple, comme le henné, avec le henné, on peut changer la couleur de la main. Ça, elle devient rouge. Comme le henné, et ce qui lui ressemble, il a dit, dans ce cas, فَلَا بَأْسَ بِهِ. فَلَا بَأْسَ بِهِ. Dans ce cas, c'est permis. Et dans ce cas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au noir que mettent les femmes dans leurs yeux. Ça ressemble aussi à tahmir al-khaddain. Ça ressemble aussi à ce que mettent les femmes sur les joues pour avoir des joues rouges. Et ça ressemble aussi à ce que mettent les femmes sur leurs lèvres pour avoir des lèvres colorées. Donc tout cela, comme vous avez remarqué, il y en a les lèvres, les yeux, les joues, tout ce qu'on met dessus, ça va changer juste pour 1 heure, 2 heures, 1 journée, 2 journées. Mais ça ne va pas rester pour la vie. Si on va changer de façon à ce que reste pour la vie, ça devient haram. Mais si c'est juste pour y aller quelques temps, non, il a dit dans ce cas, ce n'est pas haram, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et là, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le miskin. Qui c'est le miskin? Ça me rappelle le grand miskin qui est qui, vous l'avez remarqué, vous avez dû le deviner. Qui a changé sa peau? Qui a changé sa peau? De couleur noire vers la couleur blanche. Et qui n'a pas réussi, bien sûr. Tu peux changer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, rakallahu fik, Michael Jackson, na. Subhanallah. Et tout le monde témoigne que quand il était noir, il était beaucoup plus beau que lorsqu'il a voulu changer la créature d'Allah. Lorsqu'il a voulu changer la créature d'Allah, subhanallah, il a commencé à ne ressembler à rien. Ou bien un singe, ou bien une poupée, ou bien rien. Subhanallah, impossible de le voir. Subhanallah. Alors que quand il était, Allah avec son nez comme ça, un peu écrasé, et comme Allah Ta'ala l'a créé, il était, subhanallah, vraiment yani, mignon. Non. Alhamdulillah, alladhi afana. Ensuite, le cheikh dit à la page 24. Le cheikh dit à la page 24. يجوز زراعة شعر المصاب بالسلع لأن ذلك من باب إزالة عيب وليس من باب تجميل. Le cheikh dit, rahimallah, il est permis pour quelqu'un qui est chauve, qu'on lui plante, c'est pas si on dit le mot planter, qu'on lui plante yani, des cheveux sur sa tête. Il a dit, c'est permis et implante. Voilà, qu'on lui implante des cheveux sur sa tête. Il a dit, ça ne rentre pas dans la chirurgie esthétique. C'est plutôt la chirurgie réparatrice. Car être chauve, c'est un défaut par rapport aux autres gens. Vous avez remarqué, tous les hommes ne sont pas chauves. C'est ça la base. Donc maintenant, quelqu'un qui est chauve, c'est un défaut pour lui. Donc maintenant, s'il va implanter des cheveux, même sur sa tête, c'est permis, dit le cheikh Rahimahullah. Et bien sûr, il a cité le hadith que vous connaissez sûrement, des trois anges qui sont venus vers trois personnes, la personne qui était chauve, et la personne qui était aveugle, et la personne qui avait un troisième défaut que j'ai oublié maintenant. Donc, le témoin du cours, c'est la personne qui était chauve et que l'ange lui a essuyé le crâne et ensuite les cheveux ont repoussé. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais certains ont dit, je ne sais pas pourquoi le cheikh Rahimullah ne l'a pas dit. Certains ont mis ici une condition, ils ont dit, à condition que ça soit de ses cheveux à lui. C'est-à-dire, on lui prend quelques cheveux, par exemple, de la nuque, par exemple, hein, qui sont près de la nuque, du derrière, par exemple, et on les implante devant, là où il n'a pas de cheveux. Certains ont dit comme ça, ils ont dit, il faut cette condition. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okay. Ensuite, le cheikh dit à la page 26. Mais comme j'ai dit, le cheikh Ibn Uthaymeen n'a pas dit ça. Okay. Maintenant, à la page 26. Le cheikh, rahimahullah, dit, non, en ce qui concerne, lui-même, il a posé la question. Il a dit, qu'en est-il pour... Il faut me trouver maintenant la phrase en français, le mot en français. Comment ça s'appelle lorsque on prend le liquide de l'homme et on va le mettre dans les parties intimes de son épouse, si jamais yani, elle est stérile ou quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle la détalqih sénaï? Ça a un nom français. Voilà, insémination, exactement, l'insémination. Il a dit maintenant, c'est quoi son jugement en islam? Il a dit, il a dit ça, c'est très grave. Il a dit ça, c'est très grave. Il a dit, pourquoi c'est très grave? Il a dit, quelle est la garantie que le médecin ou le professeur qui va faire cette chose est quelqu'un de fiable, et quelqu'un est un homme de confiance. De façon à ce que vraiment il ne va pas mélanger et que vraiment yani, il va mettre le liquide yani, de cet homme yani, dans l'endroit de sa femme à lui, pas à une autre. Et vous savez que ce n'est pas la peine de vous dire que quand quelqu'un yani, n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout faire. Vous savez ça. Quand quelqu'un n'a pas peur d'Allah, il ne le craint pas, il n'est pas un homme fiable, on est une personne fiable. Il peut tout faire. Comme m'a dit hier, une personne on discutait hier, il m'a dit une fois, yani, un boucher. Ah, de toute façon, ce que je vais vous dire, c'est très connu, hein. Bah, c'est venu comme ça. Il m'a dit un boucher, il m'a dit, il y a quelqu'un qui lui a ramené un mouton. Il lui a dit, c'est pour Aqiqa, je ne sais pas quoi. Jazakallahu khair, vous me le coupez. Vous me le coupez. Et je passe dans une demi-heure ou une heure, je passe le prendre en morceaux. Il a dit, il est parti. Le boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est pas loin de nous ici. Le boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré tous les morceaux de viande qu'il avait dans son frigo. Et il les a mis dans un sac. Et il a ensuite, il a coupé le mouton. Et il a mis tous les nouveaux morceaux de ce mouton dans son frigo à exposer, à vendre. Subhanallah. Et l'autre, quand il est venu, il a pris bien sûr un ancien mouton, il ne savait pas. Ensuite, c'est l'associé de ce boucher qui a raconté à la personne qui m'a raconté. Subhanallah. Ensuite, ce boucher, ça fait pas longtemps, la personne qui m'a raconté m'a dit, il est tombé malade, vraiment grave. Il y a même un morceau de chair comme ça qui lui est sorti de son dos. Son dos, il avait une boule comme ça qui est sortie de son dos. Il m'a dit, je suis allé lui rendre visite et je lui ai dit, sûrement que peut-être tu fais des fautes, peut-être que tu fais des choses qui sont pas bien, etc. Ensuite, il lui a dit, quand par exemple, une fois, telle personne t'a ramené un mouton, voilà ce que tu as fait, il lui a dit, oh là, c'est vrai, j'ai fait ça, non, maintenant je regrette, etc. etc. Et moi, c'est avec les bouchers. N'en parlons pas avec les mécaniciens. Le mécanicien, c'est sa spécialité, sauf il a marahi marbi, sauf celui qui a peur d'Allah. Non. Tu lui laisses la voiture, non. Il jette un coup d'œil, il trouve qu'il y a seulement un fil, un nid d'électricité qui s'est détaché. Il le remet à sa place et il te dit, je t'ai changé telle et telle chose de 200 euros, là, 300 euros, là. Il va t'inventer des pannes, il va faire mille et une choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un boucher de confiance, un mécanicien de confiance, un médecin de confiance, un dentiste de confiance, et comme ça, non. Al-Muhim, le Cheikh Rahimallah dit, où est la preuve que le médecin qui va subir l'opération Allah est vraiment un homme fiable? Non. Il a dit ensuite, il a dit, Ana la uftifidalika, illa entarida li, il y a qadiyatul muayyanatul, arifu fiha zawja. Il a dit, moi, quand on me demande une chose pareille, est-ce que l'insémination est permise entre époux et épouse, je ne dis jamais la fais-toi. Sauf si je connais le mari, son épouse et le médecin. Il a dit, pour que je dise, c'est possible, il faut que je connaisse le mari, c'est qui. Ensuite, l'épouse, c'est qui. Ensuite, le médecin. Non, page 26. Et un peu plus bas, dans la page 29, dans une autre fatwa, il a dit que l'insémination est permise, non, est permise si elle remplit quatre conditions. Si elle remplit quatre conditions. La première condition, que ça soit vraiment une nécessité. Ce n'est pas, on va faire l'insémination par plaisir ou bien par, je sais pas quoi, par curiosité. Non, il faut que ça soit vraiment une nécessité. Deuxièmement, il faut être sûr que ça soit le liquide de l'homme, pas le liquide d'un autre homme. Il faut être sûr que c'est le liquide de l'homme, de l'époux, qui va être inséminé. Troisième condition, troisième condition, il faut que la façon et la manière de faire sortir ce liquide de l'homme, il faut qu'il soit sorti ou là qu'il se fasse sortir d'une façon permise. D'une façon permise. Non. Si c'est d'une façon qui n'est pas permise, comme la masturbation, il a dit non. Quatrièmement, quatrièmement, qu'on soit sûr qu'il va être mis dans les parties intimes de son épouse, pas d'une autre femme. Et page 29, autre fatwa, page 29, il a dit, Rahimahullah, Al-mar'atu allati yukhsha 'alayha yajuzu tanzilu ma fi batniha idha lam yablugh 4 ashhar. Fa in tamma al-haml li 4 ashhar fa la yajuzu tanzilu bi hal min al-ahwal. طيب, le Cheikh Rahimahullah dit, s'il y a une femme qui a vraiment un problème dans son ventre, elle est enceinte, et que vraiment, on a peur qu'il lui arrive quelque chose de grave, comme elle meurt par exemple. Non. Il a dit dans ce cas, c'est permis qu'on lui fasse avorter son bébé à condition qu'il n'a pas atteint 4 mois. À condition qu'il n'a pas atteint 4 mois. Il a dit, si maintenant il a atteint 4 mois, hein, dans ce cas, en aucun cas, c'est permis de faire yani, tomber ce bébé. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah voit que si c'est avant les 4 mois, et que la femme est vraiment en difficulté ou là c'est quelque chose de grave pour elle, elle risque même de mourir ou là, dans ce cas, il a dit, c'est permis qu'elle avorte bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, mais maintenant, si l'enfant a 4 mois et que Allah Ta'ala a envoyé l'ange pour insuffler l'âme, il a dit dans ce cas, dans tous les cas, il a dit, on ne peut pas faire avorter une femme. Dans un autre livre, il a dit, quitte à ce qu'elle meure elle, l'âme, et on ne fait pas tomber le bébé. Elle meurt et on fait sortir le bébé. Il a dit, mais jamais, s'il a atteint 4 mois, on a le droit de le faire tomber, car après 4 mois, c'est quoi? C'est un être humain comme tout le monde, comme moi, comme toi, comme lui, comme elle. Tu es un bébé de 4 mois. Si tu es un homme de 50 ans, ou de 60 ans, ou une femme de 40 ans, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Seulement que celui-là, il est petit, il n'a pas encore vécu. Mais il a une âme exactement comme nous, on a une âme. Donc le tuer, c'est avoir tué yani, une âme. Voyez. Ensuite, le cheikh dit, Rahimahullah, à la page 60. Non, avant cela. Page 30. Il a dit, التداوي بالحرام غير جائز. Il a dit, se faire soigner avec des choses qui sont haram n'est pas permis. Se faire soigner avec des choses qui sont haram, qui sont illicites, c'est pas permis. لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ وَالضَّرَرُ لَا يَنْقَلِبُ نَفْعًا أَبَدًا. Pourquoi? De par ce que ça contient comme mal. Et il a dit, le mal jamais ne peut se renverser et devenir un bien. Le haram, c'est un mal, ça. Si ce n'était pas un mal, pourquoi Allah l'aurait interdit? Parce que Allah Ta'ala nous interdit une chose qui est un bien pour nous. Elle dit, ça ne peut pas s'imaginer. Donc, s'il a interdit une chose, c'est que c'est haram. Donc, est-ce que ce haram, maintenant, on va l'utiliser, il va devenir un bien et on va guérir? Il a dit, ça, c'est impossible. Il a dit, plusieurs personnes se sont soignées. Ils n'ont pas été guéris. Même avec le halal, pas avec le haram. Plusieurs personnes se sont soignées avec le halal et n'ont pas été guéris. Il a dit, plusieurs personnes ont été guéries et n'ont pas soigné. C'est vrai, hein, subhanallah l'adhim. Plusieurs personnes ont soigné et n'ont pas guéri, sont mortes. Ou bien la maladie a empiré. Et plusieurs personnes n'ont pas soigné et sont guéries. Subhanallah l'adhim. Il a dit, wa ammal banj fala ba'sa bihi. Il a dit, quant à l'anesthésie, il a dit, c'est permis. Mais elle soukra, si quelqu'un va dire oui, mais l'anesthésie, ça fait enivrer. On devient ivre, on ne sait pas ce qu'on fait, on a perdu la raison, etc. Et perdre la raison, c'est haram en islam. Le shir répond, mais elle soukra, zawalu l'aqdi, ala wajhi l'adda wa tarab. Il a dit, car s'enivrer, c'est haram. Pourquoi? Car on va perdre la raison dans un but de plaisir, pour le plaisir. Celui qui va prendre l'alcool ou là, quel est son but lorsqu'il veut s'enivrer? Quel but? C'est pour le plaisir, non, pour chanter, pour rigoler, pour danser, pour faire le clown, pour faire le singe. C'est pour ça qu'il va boire. Il a dit, quant à celui qui, yani va, on va lui mettre l'anesthésie, il a dit, il ne ressent aucun plaisir. Il a dit, ni il ressent un plaisir, ni il va danser ou la chanter. Non, c'est juste à but médical. C'est juste à but médical. C'était la page 30. D'après le Cheikh Rahimahullah, il a dit en page 60. D'après le Cheikh Rahimahullah, il a dit à la page 60. Sharbu ba'di al-ayati al-maktubati bi za'afran fi ina'in. Wa. وَيَنْضَحُوَا بِالْمَاءِ جَائِزْ وَلَا بَأْسَ بِهِ. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah est de l'avis que si maintenant, par exemple, sur une assiette ou là, on avait écrit avec le safran, ce qu'on appelle en arabe « za'afran ». En français, je crois que Ça s'appelle le safran, hein? Zaafran, wallahu alam. Quelque chose de jaunâtre comme ça, comme épice. Voilà. Il a dit si, avec ce safran, on va écrire par exemple un verset. Un verset par exemple, sur une assiette. Et on va mouiller ça avec de l'eau, on va jeter de l'eau dessus. Ensuite, on va mélanger cette eau et la boire. Parce que ça contient un verset. Dans le but de la ruqya, il a dit ça, c'est déjà et c'est permis, et il n'y a aucun mal à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des savants qui disent que ce n'est pas permis. Comme Cheikh Al-Albani, je crois, Cheikh Ben Baz, Allahu alam. Non, mais Al-Albani, c'est sûr. Donc, il y a une divergence dans cette chose-là. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est de l'avis que c'est permis. Et de la Cheikh Ibn Al-Qayyim aussi, est de l'avis que c'est permis d'écrire certains versets, ensuite, de les mouiller et de boire. Et de boire, il y a né l'eau où les versets-là viennent de fondre. Non. À la page 52, écoutez ce que dit le Cheikh Rahimallah à la page 52. Il a dit, non. Le fait de vouloir donner l'un de ses reins, on a deux reins, le fait de vouloir donner l'un de ses deux reins, il a dit, c'est permis, le Cheikh dit, il a dit, c'est permis d'après le comité des grands savants d'Arabie Saoudite, mais pas d'après moi. Cheikh Amoullah, comme ça il dit. Il dit, d'après moi, c'est interdit de donner un de ses membres, à qui que ce soit au père, soit à la mère, soit à ses enfants, et encore moins de le vendre. Vendre un de ses membres, un rein, un œil, une oreille. Tous les savants sont unanimes pour dire que vendre est interdit. Mais nous, on parle maintenant si c'est pas vendre, c'est donner fi sabilillah. Le comité des grands savants a dit c'est permis. C'est permis de donner, par exemple, un rein fi sabilillah. Non, Cheikh Ibn Uthaymeen dit non. Il dit, Allah Ta'ala t'a donné deux reins, ce sont spécialement à toi, pas à une autre personne. Ensuite, tu peux donner un rein, ensuite, yani, tomber en panne. Et il a dit, avant cela, il a dit, ton corps ne t'appartient pas, ton corps, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé, il ne t'appartient pas. Donc, comment se fait-il que tu vas faire de ton corps ce que tu veux, enlever ce que tu veux et donner ce que tu veux? Il a dit ça, c'est pas quelque chose qui t'appartient pour que tu t'en serves comme tu veux. C'est pas un kilo de pommes de terre que tu viens d'acheter, tu donnes à qui tu veux des voisins. Il a dit non, ça c'est le corps que Allah Ta'ala a créé. Donc tu peux pas faire ce que tu veux et donner à qui tu veux. Wallahu Ta'ala alam. Donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, contrairement à qui? Contrairement à l'avis des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc ça c'est bien de savoir qu'il y a des divergences dans des choses. Yani pour ne pas être vraiment yani serré quand il y a des issues. Quand il y a, par exemple, des issues. Non. Et quand il n'y a pas un délit clair qui dit que c'est interdit ou là c'est permis. Ça y est. Page 87 maintenant. Le Cheikh Rahimallah a dit, il a dit, quand quelqu'un est mort, non. Par exemple, on est en train de laver. Laver. Il a dit, le fait de lui couper ses ongles, couper les ongles à un mort, ou bien lui raser les poils des parties intimes, ou bien les poils des aisselles, ou bien la moustache. Non. Il a dit, tout cela est permis à condition que les choses dont on vient de parler, yani, ont dépassé leurs limites. Yani, ont vraiment, disons, grandi. Des poils vraiment qui ont poussé. Non. Il a dit sinon, non. Sinon, non. C'est-à-dire, d'après Cheikh Ibn Rothaymé, si on va laver un mort, on trouve maintenant qu'il a des ongles. Si les ongles sont petits, on n'a pas le droit de les toucher. Mais s'ils sont grands, yani, vraiment longs, d'après Cheikh Ibn Rothaymé, on peut les couper. La même chose pour les poils dans les parties intimes et sur les aisselles, et la même chose pour la moustache. Il a dit à condition que ce qu'on vient de citer est vraiment long. Ce n'est pas, il n'a pas la taille normale. Non. Donc c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen à la page 87. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, j'ai lu dans d'autres livres, là, dans un de ses livres, il a dit que c'était pas permis. Il a dit que, il a donné une excuse, ou là une raison. Il a dit, même si c'est pas lui peut-être qui a dit ça, mais ceux qui ont dit que c'était pas permis ont dit, ils ont dit, ce mort-là, c'était à lui, quand il était vivant, de faire cette adoration. Ça, couper les ongles, c'est une adoration, ça. Ça doit pas dépasser 40 jours. Les aisselles, parce qu'ils ont dit la même chose. La moustache pour l'homme. Donc ce sont des adorations qu'on doit faire de notre vivant. Ils ont dit maintenant qu'ils n'ont, ils n'ont, ce mort n'a pas fait cette adoration dans son vivant. Donc, c'est de sa faute. Alors qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Moi, je ne vais pas lui toucher à ni ces choses-là. Wallahu a'lam, une seconde. Donc, couper les ongles d'un mort en direct, ça ne coupe pas. Alhamdoulilah. Donc, couper les ongles d'un mort ou bien yani, épiler ses aisselles ou ses parties intimes, il y a une divergence ici. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que c'était permis s'ils sont vraiment lents. Les autres ont dit que, de préférence, on ne touche pas. Ils ont dit car c'était à lui. Quand il était vivant, ce défunt-là, c'est à lui de couper ces choses. Maintenant qu'il n'a pas fait ça, c'est entre lui et son Seigneur, bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde, inshallah. Oui. C'était page 87. Ensuite, page 90, le cheikh Rahimallah dit, il a dit, quand on est en train de laver un mort, on ne fait pas rentrer de l'eau dans sa bouche. On ne fait pas rentrer de l'eau dans sa bouche, ni dans son nez, lorsqu'on est en train de lui faire le wudu. Mais il a dit, on prend un gant, ou bien une serviette. On la mouille un peu, on la mouille un peu, elle devient humide. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et on lui masse. On lui masse ses dents. Ça, c'est pour la bouche. Et on lui fait rentrer comme ça un bout de la serviette dans le début de ses narines. Dans le début de ses narines. Page 86. Donc, le mort, quand on le lave, on ne lui fait pas rentrer de l'eau dans sa bouche ni dans ses narines. Ensuite, le cheikh a dit, page 90, le cheikh Rahimallah a dit, page 90, si jamais, un bébé qui tombe mort, qui sort du ventre de sa mère mort, c'est-à-dire avant, bien sûr, qu'il n'atteigne la taille normale. Il a dit, maintenant on va voir. S'il a atteint 4 mois, on va voir, est-ce qu'il a atteint 4 mois dans le ventre de sa mère ou pas? S'il a atteint 4 mois, il a dit, on le lave au yukafan et on le met dans le drap, etc. Et on va prier sur lui et on va l'enterrer dans un cimetière de musulmans. Ça, c'est à condition de quoi? À condition qu'il a atteint 4 mois. 4 mois dans le ventre de sa mère. Ouais, il l'a. Maintenant, s'il n'a pas atteint 4 mois, quand on dit n'a pas atteint 4 mois, ça veut dire on lui a pas insufflé l'âme. Ça veut dire c'est pas un être humain. Maintenant, s'il n'a pas atteint 4 mois, fallait au rassel. On ne le lave pas, et on ne lui fait rien de ce qu'on a cité tout à l'heure. Mais on le met comme ça dans un drap et on va l'enterrer dans n'importe quel endroit, dans une forêt, dans un jardin, dans un, je sais pas, n'importe où, même dans un endroit sûr, que yani, les enfants ne vont pas le déterrer, ou là, les chiens ne vont pas le déterrer, ou là, mais c'est pas la peine de le prendre, à quoi? C'est pas la peine de le prendre au cimetière, car le cimetière, on doit laisser la place aux morts. Celui-là, il n'était pas vivant pour dire de lui, c'est un mort. Il est né comme ça, mort. Donc, on ne va pas y prendre la place d'une autre personne au cimetière. Mais celui-là, on va l'enterrer dans une forêt. Naam. Ça, Ça, c'est la page 90, bi'idhnillahi ta'ala. Et maintenant, il vient d'appeler ici, à Salat, l'Isha. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans entre 20 minutes et une demi-heure, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez, si vous voulez, musulmans, si vous voulez déjà commencer à prendre des questions, bi'idhnillahi ta'ala. Comme ça, quand je viens, juste je vais ajouter une ou deux choses et on passe pour questions, inshallah ta'ala. On commence par les questions qui ont rapport avec le cours, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib. On commence, inshallah ta'ala, par les cinq premières questions. Et notez que il est 21h30 en Algérie. Il est 21h30 en Algérie, inshallah ta'ala. Pour que ça soit exactement une heure. Tfadal.
Donc la première question, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la Ummah. Je suis arrivé en retard pour le cours. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais je souhaitais savoir si le mort doit être enterré sur le dos ou sur le côté. Comment doivent être placés ses doigts? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, lorsqu'on nous appelle pour le laver, doit-on refuser ou y a-t-il différents avis? Dans ce cas, est-il permis aux pompes funèbres musulmanes de procéder à un enterrement car ça coûte des frais aux parents du bébé? Barakallahu fikoum shir, qu'Allah vous guérisse et vous récompense. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir. Vous avez dit dans le cours qu'il n'était pas permis de se soigner avec des choses haram. Or, on sait de nos jours que beaucoup de médicaments sont en réalité très nocifs pour la santé, de même que certains vaccins qui contiennent par exemple du mercure ou autres substances nocives. Nous est-il donc permis d'en utiliser ou de se vacciner en sachant qu'il nous est interdit de nuire à notre santé? Commettons-nous un péché si l'on ne prend pas la peine de vérifier ce que l'on consomme comme médicament, de chercher à savoir s'ils contiennent, oui ou non, un mal pour nous. Qu'Allah vous récompense et vous guérisse. Question suivante. Salam alaikum, cher. Les gens qui font l'insémination et dont les médecins sont des koufars, alors tous les musulmans qui ont ce problème... Ah, mais attendez, cher, je lis la question car elle est mal formulé. Non, donc, cher, pour résumer la question, la personne dit, pour les personnes qui doivent faire donc appel à l'insémination, à l'usage de l'insémination pour espérer avoir un enfant, donc elle parle bien sûr des personnes qui sont musulmanes, est-ce qu'ils doivent donc se dire que cette possibilité de l'insémination est interdite? Ou alors voir, comme vous l'avez dit dans le cours de ce soir, voir le cas où on connaît donc les parents et le médecin. Par exemple, je ne sais pas si le médecin, c'est le frère biologique de la personne qui a ce problème, de voir si ça peut rentrer dans un cas de figure licite. La deuxième, non, donc je répète la deuxième, Inch'Allah. Si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, lorsqu'on nous appelle, Naam. Naam, ok, cher. Dites-moi lorsque c'est bon.
Tafadhal, l'akh muslim. Pour la première question, d'abord, j'ai pas compris que veut dire la personne en ce qui concerne les doigts du mort. Elle dit, je l'ai pas compris. Et Barakallahu fik, c'est quoi la deuxième question, tafadhal?
Non, Michel, elle veut peut-être dire les mains. Peut-être est-ce qu'elles doivent être le long du corps? Est-ce qu'elles doivent être sur le ventre? Ou là, je pense que ça doit être ça plutôt. Plutôt les mains que les doigts. Ou alors peut-être est-ce qu'ils doivent être le poing fermé ou là, le long, je ne sais pas. Allahu alam. Non, donc la seconde question. Si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, donc c'est-à-dire les 4 mois dans le ventre, chéri, hein, c'est pas 4 mois après la naissance. Si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, lorsqu'on nous appelle pour le laver, doit-on refuser ou y a-t-il différents avis? Dans ce cas, est-il permis aux pompes funèbres musulmanes de procéder à un enterrement car cela coûte des frais aux parents du bébé? Barakallahu fikoum, chéri, qu'Allah vous guérisse et vous récompense. Donc la troisième question, c'était sur les substances illicites permettant de nous soigner. La quatrième, donc c'était par rapport à l'insémination, chère, des personnes musulmanes. Et donc elle disait, si ces personnes donc, sont des musulmans et que le seul espoir est de faire appel à l'insémination, est-ce que cela donc leur est interdit ou peuvent-ils le faire donc à certaines conditions? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En ce qui concerne le livre, non, enfin, c'est pas la question sur le cours. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous préserve. J'ai lu une fatwa du comité permanent que dans certaines conditions, l'avortement après 4 mois était autorisé. Voici un extrait. Après le troisième stade et achèvement des 4 mois de grossesse, il est interdit d'avorter jusqu'à ce qu'un groupe de médecins spécialisés et de confiance décide que la conservation du fœtus en intra-utérin engendrerait sa mort. Et ce, après avoir utilisé tous les moyens pour sauver sa vie. L'autorisation d'avorter a été accordée soumise à ces conditions pour empêcher le plus grave des deux maux et pour réaliser le plus grand des deux intérêts. Donc il m'a donné le lien du site cher si vous le voulez. Et là il demande donc est-ce que j'ai bien compris? Tfadal cher.
Non. Je commence, Inch'Allah Ta'ala, par la dernière question. C'est pas la peine le lien, Inch'Allah Ta'ala, car j'ai lu ça, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis à la personne qui a dit est-ce qu'elle a bien compris, elle a bien compris en fait. Elle a bien compris en fait. Il y a des savants et de grands savants qui permettent l'avortement après 4 mois, vraiment, yani, dans des conditions vraiment, vraiment, vraiment restreintes. Mais nous, ce qu'on avait dit, c'était l'avis le Cheikh Ibn Outaymiyyah rahimahullah, qui voit que dans aucun cas, non, il n'y a de quoi, il n'y a de permission. Non. Donc c'était ça la différence entre l'avis de Cheikh Ibn Outaymiyyah et l'avis d'autres qui ont permis, si c'est vraiment yani, grave, bi'idhnillahi ta'ala. Et wallahu alam, mais wallahu alam, si on prend de l'avis des autres, si c'est vraiment yani, un cas grave, 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 non. On aura toujours, Inch'Allah Ta'ala, quoi? On s'est toujours basé sur yani, des dires de grands savants et on n'a pas, Inch'Allah Ta'ala, tiré ça de la tête. Et d'un côté, c'est mieux aussi de propager l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah pour que les gens, surtout les femmes qui n'ont pas beaucoup de foi et qui sont faibles, etc., ne facilitent pas la chose et ne commencent pas pour yani, un rien. Yani, elles commencent à avorter, bi'idhnillahi Ta'ala. On revient à la première question, Inch'Allah Ta'ala. Pour le mort, comment qu'on va l'enterrer? On va l'enterrer sur son flanc, son côté droit. On va l'enterrer sur son côté droit. Ce n'est pas sur son dos ni sur son ventre, mais sur le côté droit, le visage en face de la Qibla. On va le mettre en face de la Qibla et le mettre sur le flanc droit. En face de la Qibla. C'est comme si, par exemple, maintenant la Qibla est en face de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais m'allonger sur mon flanc droit. De façon à ce que, tout en étant allongé sur mon côté droit, je suis en train de regarder la Qibla. Comme ça, on doit y aller enterrer un mort, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est pas la peine de dire alors que sa main droite, son bras droit, sera automatiquement sous son flanc, sous son côté. Pas possible qu'il soit ailleurs. Et la main gauche et le bras droit gauche aussi sera obligatoirement sera yani, sur le côté gauche. Ça y est. Maintenant pour le bébé, la deuxième question, le bébé qui n'a pas 4 mois, il a dit que yani, ça coûtait de l'argent aux parents, etc. Pour être franc, yani, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris yani, pourquoi les parents vont perdre de l'argent, qui est-ce qui va payer, ils vont payer quoi, etc. Tout ça, je n'ai pas compris. Inch'Allah, c'est facile. Inch'Allah, musulman, tu peux me formuler, me reformuler cette question. Inch'Allah, je n'ai pas compris. Non. Pour la troisième question, les médicaments qui sont nocifs, non. Est-ce que donc on doit les prendre, etc. Est-ce qu'on doit vérifier les médicaments? Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bien sûr que c'est interdit en islam de prendre des choses qui nous font mal. Le prophète alayhi salam a dit, la darar wa la dirar. Ni on se fait mal à soi-même, ni on fait mal aux autres. Mais maintenant, des fois le médicament fait mal, mais nous guérit. Comprenez? Des fois le médicament, on n'aime pas le boire, on n'aime pas l'avaler, mais il nous guérit, il nous guérit, ça veut dire. Allah Ta'ala fait de sorte que on trouve la guérison avec ce médicament. Maintenant, si on sait que le médicament qu'on va prendre est vraiment nocif, est vraiment nous fait mal, et on ne guérit pas, et ça empire, etc., dans ce cas, ça devient interdit de le prendre. Ça devient interdit de le prendre. Non. Vous regardez par exemple. Ceux qui ont permis à l'épouse, par exemple, qu'elle prenne la pilule, les savants qui lui ont permis qu'elle prenne la pilule, à part les autres conditions qu'ils ont posées, ils ont posé une condition comme quoi, que ça soit pas elle qui la choisisse de sa tête, mais que ça soit le médecin qui lui donne celle qui ne soit pas nocive, celle qui ne lui fasse pas de mal. Il y a des pilules qui font mal à la personne. Non. Donc, toute chose qui fait mal, il faut l'éviter. Maintenant, si vraiment il n'y a que ce médicament et que par expérience il a été prouvé qu'il donne des résultats positifs, dans ce cas on est excusé, bilna ta'ala. Quant à vérifier et à ne pas vérifier les médicaments, j'ai peur de dire hein, que les gens vont comprendre, si on va dire vérifier, ils vont comprendre que ça va rentrer dans les osouesses, qu'on va prendre chaque médicament. On va lire la notice. En principe, si on est allé chez un médecin et que ce médecin est vraiment yani, quelqu'un de fiable et quelqu'un yani, qui s'y connaît dans son métier, il ne va pas nous donner des médicaments qui vont nous faire du tort. C'est ce que je sais. Maintenant, c'est dans le cas où nous-mêmes, on a une boîte de médicaments et on a un mal et on va prendre un médicament qu'on ne connaît pas. Dans ce cas, on va lire la notice pour voir est-ce que yani, il convient ou il ne convient pas. Bidna ta'ala. Une seconde, inshallah. Assalamu alaikum. Muslim, c'était quoi donc la question avec ta bébé?
Wa'alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Donc, la question du bébé, pour faire simple, cher, le bébé qui n'a pas atteint les 4 mois dans le ventre de la mère, la personne demande en fait si on doit la laver. Est-ce qu'il y a un lavage mortuaire à faire sur ce bébé ou il n'y en a pas? Sachant qu'elle dit que si on fait donc un lavage mortuaire alors il n'y a pas lieu d'être, pour les parents, il va avoir donc des frais inutiles. Donc elle demande en fait que doit-on faire pour un bébé qui n'a pas atteint les 4 mois. Et sur la question chère des médicaments, déjà, il faut savoir que dans beaucoup de médicaments, beaucoup de gélules, il y a de la gélatine qui est utilisée pour faire l'enrobage des médicaments. Donc après, c'est pareil, ça va rentrer dans le IRTILAF. Est-ce que la gélatine, c'est halal, haram? Et après, donc peut-être les frères et sœurs vont faire le waswas, comme vous avez dit, et peut-être ils vont plus prendre de médicaments. Wallahu a'lam. Tfadal, cher.
Non. Et c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Jamais de ma vie, jamais de ma vie, un médecin m'a donné un médicament et j'ai été à la maison pour dire, attends, d'abord je vais lire de quoi il est composé ou là. Enfin, un médicament, c'est un médicament, des fois il contient un peu d'alcool, des fois il contient je ne sais pas quoi. Tout ça, moi je ne vais pas le prendre dans le but de quoi? Dans le but du plaisir ou là. Je le prends dans le but de soin. Enfin, et des fois, il comprend des choses. Voilà, les effets secondaires, d'accord. Les effets secondaires, d'accord. Mais sinon, non, il ne faut pas rentrer dans les ouest-ouest, Sauf si vraiment il y a un médicament qui est vraiment connu, qui est yani, à base de porc et à base d'alcool, yani, c'est plein d'alcool, de porc, etc. Bien sûr, il faut l'éviter. Sinon, tous les autres médicaments, il ne faut pas yani, rentrer dans les housses. Inch'Allah ta'ala. Pour autre chose, donc, on revient à la question du bébé. Je dis, le bébé qui n'a pas atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, puis il est tombé mort, non, en fait, ce n'est pas un bébé, en fait. Ce n'est pas un bébé. Pourquoi? Parce que il n'a pas, on ne lui a pas insufflé l'âme. C'était juste un morceau de chair. C'est pour ça que on ne le lave pas, on ne met pas aussi, yani, ce qu'on appelle en arabe kefn, et on ne l'enterre pas aussi dans le cimetière. Maintenant, s'il y a des parents qui disent non, il faut par exemple quoi? Il faut par exemple l'enlever, il faut le laver, il faut le laver. Et que yani, ça demande de l'argent ou là, ce sont eux qui vont perdre leur argent. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme ça? Moi, je vais le laver, mais je vais vous dire que yani, ce n'est pas obligé de laver en islam. Mais vous, si vous voulez le laver, voilà, yani, vous devez payer telle et telle chose de brassac. Vous voulez perdre de l'argent pour rien, perdez-le. Voilà, mais je leur dis qu'en islam, quand il n'a pas atteint 4 mois, ne le lave pas parce que ce n'est pas un être humain. Non. Voilà pour des. Et enfin, pour l'insémination, non, Cheikh Ben Rotemi, rahimahullah, regarde avec toute la science qu'il a, et il a dit, moi, je ne peux pas dire aux gens que l'insémination est permise. Et il a dit, si c'est permis, il faut telle et condition, yani, qu'il a posé. Donc, maintenant, si lui, qui est un savant, il dit comme ça, qu'en est-il moi qui ne connais qu'un verset ou deux, un hadith ou deux, qu'en est-il yani, de ma réponse, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Faites pour les 5 autres questions.
Donc malheureusement, cher, pour le cours, il n'y avait que ces questions. Donc on passe sur des questions d'ordre général, Inch'Allah. Salam alaikum, cher Hana. Je suis une sœur et je suis l'avis qui dit que le niqab n'est pas obligatoire. Et ma question est la suivante. Est-il permis de profiter des services d'un dentiste pour une raison autre que les soins des dents, mais uniquement pour une raison esthétique? Exemple. Rendre les dents droites, les ajuster en les taillant, etc. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous consacrez. Question suivante. Salam alaikum, cher. Est-il souhaitable de donner la khutbah du vendredi en français pour la France, sachant que la plupart des musulmans ne comprennent pas l'arabe lorsqu'ils assistent au prêche? J'avais lu l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Mais y a-t-il divergence sur la question? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum. Qui est Abdullah Azam? Barakallahu fikoum. Est-ce que vous le connaissez? Question suivante. Salam alaikum. Est-il obligatoire de faire l'istinja à chaque ablution? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cheikh, qu'Allah vous accorde la guérison. Il y a un frère qui souhaiterait faire une muqabala avec moi, mais il ne fait pas partie du minhaj salafi. Dois-je accepter ou refuser, sachant que ce frère n'est pas non plus contre le minhaj? Barakallahu fikoum, Cheikh. Wa hayakumullah. Je tenais à préciser que le frère ne fait pas partie de Ahlul Bida. Je pense qu'il ne connaît pas encore la voie du haqq. Tfadal.
Mousseline, pour la première question, la sœur avait dit qu'elle était de l'avis que le niqab n'était pas obligatoire. Ensuite, quelle est la relation avec les dents? Qu'est-ce qu'elle a dit des dents? Tfadal.
Elle disait, cher, elle dit que le niqab n'est pas obligatoire. Elle est d'avis que c'est pas obligatoire et elle demande en fait s'il est permis de les d'embellir ses dents, à mon avis, parce que ses dents vont être visibles. Et elle pense peut-être que ça peut être un charme ou une tentation ou là attirer le regard si elle les fait donc rendre droite, tailler, etc. Wallahu alam. Tfadal, cher.
D'accord, j'ai compris, Inch'Allah Ta'ala. Vous m'entendez faire ça? Alhamdulillah. Donc d'abord, quand elle dit que qu'elle est de l'avis que le niqab n'est pas obligatoire, je lui dis que le fait qu'il ne soit pas obligatoire, c'est l'avis des quatre grands imams. Abu Hanifa, Shafi'i, Imam Malik et Ahmed ibn Hanbal. Donc, elle n'a pas tiré quelque chose de sa tête, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, sans dire que c'est l'avis de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, contrairement à tout, ou à presque tout, les savants d'Arabie Saoudite, bi'idhnillah ta'ala. Maintenant, si un homme ou une femme, c'est la même chose, va aller chez le dentiste parce que ses dents, yani, sont par exemple en forme de crochet, ou bien sortent de la bouche, ou bien ne sont pas, yani, ne poussent pas vers, yani, comme elles doivent pousser normalement, mais elles vont de travers, etc. Tout cela, c'est permis de corriger ces choses, car ce sont des défauts. Non. Il faut voir entre la personne qui veut s'embellir en faisant des choses pareilles et la personne qui veut corriger ses défauts. Des défauts, c'est-à-dire, moi, quand je vois une personne, je lui dis par exemple pourquoi telle dent elle est noire, par exemple. Donc celle-là, il faut la blanchir, ou bien pourquoi il y a un trou, celle-là, il faut la plomber. Pourquoi celle-là, elle n'est pas à sa place, donc celle-là, il faut la remettre à sa place. Pourquoi celle-là, elle est sur l'autre, donc celle-là, il faut l'enlever pour qu'elle ne soit pas sur l'autre. Et enlever celle-là pour laisser l'autre repousser. Et comme ça, tout ce qui est dans ce sens-là, c'est permis de le corriger. Ce qui n'est pas permis, c'est comme a dit le prophète, c'est par exemple d'aller chez le dentiste, par exemple, pour écarter un peu entre les dents, écarter entre les incisives comme ça, ou là, les dents du devant comme ça, pour que la personne, lorsqu'elle sourit, ou là, elle rit, même, ça donne un certain charme, ça donne à la personne une certaine beauté. Les dents, quand elles sont comme ça, un peu écartées l'une de l'autre, ça rentre dans les grands péchés. Mais la personne qui va corriger des défauts qu'elle a dans les dents, ou bien mettre un dentier, ou bien mettre, je sais pas comment ça s'appelle ça chez vous, mettre, il y a des surtout les femmes qui font ça, il y a des dents qui sortent comme ça, il y a des couronnes, je crois, c'est comme des fils de fer comme ça, des fils de fer qu'elle met pendant une année ou là 2 ans ou là, pour que les dents ne sortent, une bague, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou là, pour que les dents ne sortent pas vers l'avant, pour que les dents restent à leur place. Là, elle met quelque chose comme ça qu'on voit, et qu'on voit quand elle ouvre sa bouche ou là, c'est même moche. Mais là, elle doit mettre ça pour que les dents restent à leur place et ne sortent pas, yani, et ne fassent pas, yani, un grand défaut. Non. Pour la deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la deuxième question, inshallah ta'ala, la khutba de la Jumu'ah, hein, pour la faire carrément en français, yani, aucun mot en arabe, ce n'est pas bien. Hein. C'est permis de la faire en français à condition que le début soit en arabe. Au moins, khutbat al-haja. Le début que je fais toujours avant de commencer avec vous. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, je peux la faire carrément en français. À condition, je dis bien à condition, que la plupart qui sont dans la mosquée ne comprennent pas l'arabe. Ou alors, tout le monde ne comprend pas l'arabe. Mais s'il y a des gens maintenant qui, c'est tout à fait le contraire, parmi les présents, il y a des gens qui ne comprennent pas le français, dans ce cas, c'est interdit de la faire seulement en français. Car, normalement, elle doit être en arabe. Maintenant, on la fait en français à cause des gens qui ne comprennent pas le français, l'arabe. Mais à condition qu'il n'y ait pas de gens qui ne comprennent pas le français. Sinon, on est obligé de la faire, par exemple, la première partie en arabe et la deuxième en français. Non. Mais maintenant, s'il n'y a que des Français, s'il n'y a que des gens qui ne comprennent que le français, dans ce cas, on la fait seulement en français. À part le début, alhamdoulilah, etc. si on est en Chine et il y a que des Chinois, on l'a fait en chinois. Après, alhamdoulillah. Et comme ça, Allah Ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. On a envoyé de messagers que avec la langue de leur peuple, pour qu'ils leur montrent. Il faut parler avec les gens, avec la langue qu'ils connaissent. Non. Quatrième question, ensuite on va terminer par la troisième question. Quatrième question, est-ce qu'on doit faire l'istinja à chaque ablution? L'istinja, c'est-à-dire laver ses parties intimes. Est-ce qu'on doit laver ses parties intimes à chaque fois qu'on va faire des ablutions? Réponse, bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne lave ses parties intimes que si on va aux toilettes pour uriner. Dans ce cas, on lave ses parties de devant. Ou alors pour déféquer, dans ce cas, on lave ses parties de derrière. Sinon, on ne touche pas à ces deux parties. Quand quoi? Quand on n'a pas fait ces deux choses, on va directement aux ablutions, on dit Bismillah et on commence par les mains. Non. Pourquoi on dit comme ça? Car c'est vrai, il y a beaucoup de gens, yani, qui n'ont pas de science, qui sont nouveaux dans la religion, ou bien qui font partie des gens de la masse, qui ne demandent pas la science. Miskin, à chaque fois qu'il veut faire les ablutions, il va se laver les parties intimes de devant et d'arrière. Subhanallah al-Azim. Regardez, Subhanallah al-Azim, combien, yani le fardeau, le lourd fardeau qu'il va se faire porter, alors que Allah Ta'ala ne lui a pas yani imposé ce fardeau. Mais, à cause de l'ignorance, il doit passer par les toilettes d'abord, laver ses parties intimes, ensuite pour aller faire les ablutions. Ma dernière question pour la muqabala avec un frère qui n'est pas du minhaj. On va dire à la personne, cela dépend. Est-ce qu'il y a un frère du minhaj qui est déjà prêt? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Maintenant, s'il n'y en a pas, hein, donc ça c'est le moindre mal, comme on dit. Quand il y a deux mots, on repousse le plus grand en faisant le plus petit. Donc, se marier avec quelqu'un qui est non salafi, mais qui en même temps, alhamdoulilah, n'est pas contre les salafis, ou là qui n'a pas encore compris les choses, ou là qui est dans son début ou là, hein, c'est, comme on dit, le moindre mal. Car rien n'est sûr que il va accepter après. Rien n'est sûr que, d'accord, il n'est pas contre, mais rien n'est sûr qu'il va accepter après. Non. C'est pour ça que on va voir est-ce que cette personne a les moyens de trouver un salafi. Ou n'en a pas. Si elle n'en a pas, on ne va pas lui dire tu ne vas pas te marier. Tu vas attendre jusqu'à ce que vienne le salafi. Sinon, tu ne te maries pas toute ta vie, ni enfant, ni rien. Non, dans ce cas, on va lui dire ça ne fait rien. Prends quelqu'un qui n'est pas salafi, mais à la rigueur qui n'est pas contre. Et Inch'Allah ta'ala, tu lui fais la da'wah petit à petit. Ça s'appelle repousser le grand mal en acceptant le petit. Enfin, pour la dernière question qui était la quatrième. Ça parle de la personne, il a dit Abdullah Azam. Est-ce qu'il parle de Abdullah Azam de qui est au Yémen? Est-ce qu'il parle de Abdullah Azam? Non. Attendez, Abdullah Azam. Non, Abdullah Azam n'est pas au Yémen. Moi, je parlais de Zendani, Afoun. Je confondais, je parlais de Zendani. Non. Donc, lui, il parle de Abdullah Azam qui est mort. Est-ce qu'il parle de celui-là? Vous me confirmez d'abord, il parle de Abdullah Azam qui est mort il y a des années. Ça ne fait rien, on passe à d'autres questions. Le temps que Inch'Allah Ta'ala, il nous confirme s'il parle de lui, bi'idhnillah Ta'ala, tfadlak.
Non, donc nous allons entendre qu'elle confirme. Je passe aux questions suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Hayakum Allah Azza wa Jal. Quand vous parlez de changer la couleur de la peau seulement pour un certain temps, pouvons-nous conclure que les UV sont autorisés ou ceci ne rentre pas dans la permission? Barakallahu fikoum, cher. Hafizakum Allah. Non, donc les UV, cher, si vous ne voyez pas ce que c'est le bronzage artificiel. Le bronzage artificiel. Sachant que c'est un danger, c'est un danger pour la peau, le fait de se faire bronzer de cette façon. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur demande. Ma professeure d'arabe diffuse beaucoup de choses erronées à ses élèves concernant la religion. Elle ne se remet pas en question malgré les preuves que je lui apporte et ne revient pas sur ses propos. M'est-il permis de continuer à suivre ses cours en ne prenant d'elle que la langue arabe, qu'Allah vous récompense et vous élève en degré? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Puisse Allah Azzawajal vous préserver de tout mal et vous guérir d'une guérison parfaite. Ma question concerne le fait de prendre les avis seulement des quatre imams. Qu'en est-il de donner des cours en disant seulement tel imam a dit ou tel imam a dit? Comment doit-on faire quand on a un hadith authentique? Peut-on continuer à se proclamer d'une école? Est-ce obligatoire? Jazakumullah khairan. Pour votre réponse, qu'Allah vous rajoute de la science. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh Anna. Est-ce que l'on peut participer à l'enterrement d'un membre de notre famille, exemple notre père, sachant qu'il n'est pas musulman? Question suivante. Assalamu alaikum, Yachir. Voilà, je me trouve dans une situation difficile. J'ai une sœur qui ne fait pas salat. Et à qui nous pouvons faire nasiha. Et à qui nous ne pouvons pas faire nasiha. Entre parenthèses, elle s'énerve et sort de la maison. Suite à une petite dispute, sans gravité, elle ne veut plus me parler. J'ai essayé de lui reparler, mais elle refuse. Subhanallah, je ne lui ai pourtant rien fait dans cette histoire. Comment dois-je faire? Comment faire? Suis-je concerné par le hadith concernant les œuvres suspendues à cause de liens de parenté rompus? Quel est votre conseil, Yachir? Barakallahu fikoum. Tfadal, Yachir.
Naam, fi saut, inshallah. Barakallahu fik. Pour les doua qu'on me fait, je dis Amin et à vous de même. Amin, à vous de même. Amin et à vous de même. Et à vos familles. Et à vos familles. Naam, pour les UV, naam, franchement, je ne savais pas ce que c'est. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et je ne sais même pas, yani, comment ça se passe, le bronzage artificiel. Mais, si la personne est sûre que il a été prouvé que c'est un danger pour la peau, ou que ça peut donner un cancer, ou que ça peut faire rien du tort, non, que ça peut faire du tort ou là, dans ce cas, ça devient interdit sans doute, bi-idhnillah. Non, ça peut donner un cancer ou là, ça devient interdit, bi-idhnillah. Moi, ça fait longtemps que j'ai lu que le bronzage naturel, yani du soleil, et que ça pouvait donner un cancer. Qu'en est-il maintenant si c'est artificiel, si c'est des lumières, etc., et des projecteurs, etc. Donc, vaut mieux éviter, bi-idhnillah, subhanahu, azzawajal. Pour Abdullah Azzam, rahimahullah, qui est mort, naam, la personne avait dit, c'était qui? Je dis, inshallah ta'ala, maintenant qu'il est mort, et même si j'ai dit rahimahullah ta'ala, car comme dit Cheikh Rabi'a Hafidhahullah, il dit, même les gens de la bid'a, les gens des salaf, disent sur eux, rahimahullah, quand ils sont morts. Il a pris ça de l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc, Abdullah Azzam, rahimahullah, c'était une grande tête des Ikhwan muslimin. Abdullah Azzam, rahimahullah, c'est un chef, une des grandes têtes des Ikhwan muslimun. Et il est mort en allant faire, yani il voulait faire le djihad, quelque chose comme ça. On lui a mis une bombe dans sa voiture, sous sa voiture. Et lorsqu'il est monté dans la voiture a explosé. Il est mort, je crois, si je me trompe pas, j'ai une bonne mémoire, lui et son fils. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Pour le prof d'arabe, la religion, etc., on va voir maintenant s'il y a moyen de ne plus prendre des cours d'aide, à condition qu'il y a d'autres yani, à m'apporter. Dans ce cas, je laisse celle-là hein, pour prendre d'une personne qui ne donne pas de choses erronées dans la religion. Maintenant, s'il n'y a qu'elle, il n'y a pas d'autres, il n'y a qu'elle et je suis obligé d'apprendre l'arabe, il n'y a qu'elle. Dans ce cas, je prends d'elle l'arabe, mais à condition que, à chaque fois que c'est quelque chose d'erroné, Yani avec sagesse, je lui envoie un fichier ou là je lui donne la nasiha, même si je sais qu'elle ne va pas l'appliquer. Maintenant, juste une nasiha. Je n'ai plus besoin de nasiha. Dans ce cas, je ne lui donne plus de nasiha. C'est elle qui ne veut pas. Non. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Qu'est-ce qu'il reste? Non, pour la troisième, donner un cours d'après des quatre grands rites. Non. Dire, je n'ai rien appris. Sauf, et c'est qui le quatrième? Imam Malik a dit que yani, c'était recommandé. Mais je n'ai rien appris. Où est le plus sûr? Où est la ville Arjah? Où est la ville le plus sûr? Dans ces quatre choses. Dans ces quatre dires. Non. C'est pour ça que les gens qui assistent à des cours, on ne dit pas, non, voilà ce qu'a dit Allah, voilà ce qu'a dit le hadith authentique. Et même si on cite les grands savants, ou là, les quatre grands imams, on dit, mais l'avis le plus juste, c'est celui, par exemple, de Abu Hanifa, ou bien de Malik, dans cette chose-là. Non, dans la chose dont on est en train de parler, l'avis le plus sûr, c'est par exemple de Ahmed ibn Hanbal. Car, il se base sur un hadith et comme ça. Mais maintenant, si on cite seulement l'avis des quatre, sans donner l'avis le plus juste, l'avis le prédominant, ça veut dire que, yani, on n'apprend rien. On n'a rien appris. Je ne sais pas ce que Allah Ta'ala m'a obligé de faire, ni ce qu'il m'a enjoint de ne pas faire. J'ai seulement appris que l'imam Ahmed a dit telle chose, l'imam Malik a dit autre chose. C'est pour ça que le livre très connu, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Fiqh Sunna, de quelqu'un qui s'appelle Seyyed Saber, un Égyptien, Seyyed Saber. Ce livre, très connu. Si vous allez rentrer à la, si vous allez l'acheter, c'est quatre tomes, ou là trois grands tomes. Si vous allez l'acheter, du début à la fin, dans chaque chose, à partir du wudu jusqu'à la fin, djihad, ou là tout ce que vous voulez, dans chaque chose, il dit, il y a une divergence. L'imam Abu Hanifa a dit telle chose. L'imam Malik a dit telle chose. L'imam Shafi a dit telle chose. Et yani, l'imam Ahmed a dit telle chose. Mais il te dit jamais quel est l'avis le plus sûr à suivre. Donc c'est pour ça qu'en achetant ce livre, on va rien apprendre dans la religion. On va rien apprendre dans la religion, sauf qu'on va apprendre ce qu'on dit les quatre grands imams. C'est tout. Non. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah a pris ce livre et a écrit un livre sur ce livre, un commentaire sur ce livre très connu, qui s'appelle Tamamul Minna. Tamamul Minna, Ta'liq ala Fiqh Sunna. Tamamul Minna. Et à chaque fois, il dit voilà l'avis le plus juste dans ce qu'a dit Sayyid Sabiq. Mais bien sûr, rahimahullah, comme vous devez savoir, il n'a pas terminé ce livre. Il n'a pas terminé. Je crois qu'il est arrivé à la zakat, ou Allah subhanahu wa ta'ala alam. Maintenant, qu'en est-il s'il y a un hadith authentique? Est-ce qu'on a le droit de rester dans les quatre avis de ces quatre grands savants? On n'a plus le droit, même, de rester dans l'un des quatre, yani, dans l'un des quatre avis de ces quatre grands savants, s'il y a un hadith authentique qui est clair, et qui montre la chose. Dans ce cas, l'âme, yani, on aura placé l'avis de l'un de ces quatre savants sur l'avis, sur le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas, ça devient grave. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Oh, vous les croyants, attention, ne devancez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses dires, dans ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas le prophète islam, il dit telle chose, c'est haram, et toi tu dis l'imam Malik a dit c'est permis. Je donne un exemple très simple. Si vous allez lire le fiqh de l'imam Malik, il dit c'est pas bien de manger le cheval. C'est même interdit. Alors que le hadith est authentique, que ils ont mangé du cheval à l'époque du prophète islam, il ne leur a pas interdit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre l'avis du prophète qui dit c'est permis de manger la viande du cheval. Ou là, l'avis d'Imam Malik qui dit c'est interdit. Qu'est-ce qu'on va? Place? Maintenant, on n'a plus que prendre de l'avis ou du texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'avis de l'imam Malik, on dit, Naam, c'est un grand savant, etc. Mais là, il a fait des efforts et il s'est trompé. Il ne connaissait pas le hadith qui permettait, par exemple, de manger la viande du cheval. Ça, c'est un exemple. Sinon, il y a des milliers d'exemples en ce sens, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Pour la quatrième question, inshallah ta'ala, il n'est pas permis d'assister à un enterrement de quelqu'un de la famille si c'est un kafir. Naam. Si quelqu'un il est mort kafir, c'est interdit d'aller à son enterrement. Maintenant, si j'ai peur de la famille ou je ne sais pas quoi, je trouve une excuse. Je trouve une excuse, naam. Je trouve une excuse. Je rentre mes doigts dans ma gorge et je commence à vomir. Et je dis, attention, laissez-moi vomir. Je peux pas aller au cimetière. Au contraire, cherchez-moi un endroit où je vais vomir. Naam. Et je trouve comme ça des excuses pour ne pas aller au cimetière, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Même si je dois aller chez le dentiste. Juste pourquoi? Juste pour y aller, voir si mes dents sont bien, si. S'il n'y a rien qui manque à mes dents, etc. Ensuite, je dis que je dois aller chez le dentiste. Non. Et je vais faire un tour chez le dentiste. Ou alors, je vais faire un tour chez le médecin pour faire un bilan, c'est tout. Et je dis que je dois aller chez le médecin, et comme ça. Mais je ne vais pas faire le haram, bi-idhnillahi ta'ala. Pour la dernière question de la sœur qui a dit que sa sœur n'aime pas qu'on lui parle de la salat et que je ne sais pas quoi, et que maintenant, elle ne lui parle plus. Est-ce qu'elle a rompu les liens? Elle n'a pas rompu les liens. Elle n'a pas rompu les liens familiaux. Pourquoi? Car ce n'est pas elle qui ne veut pas parler à sa sœur, mais c'est sa sœur qui ne veut pas lui parler. Moi, quand quelqu'un, je fais des efforts pour lui parler, et c'est lui qui ne veut pas parler. Que ce soit mon frère, que ce soit mon oncle, que ce soit. Donc maintenant, c'est qui est dans la faute? C'est qui a les péchés? C'est lui. Allah Ta'ala sait que je veux lui parler, que j'ai essayé. Mais l'autre ne veut pas. Maintenant, ce n'est plus de ma faute. Maintenant, je ne lui parle pas. Et c'est lui qui a quoi? C'est lui qui aura des péchés bien. Alors, ensuite, cette sœur ne veut pas te parler et t'esquive pour la raison qui est très claire. Car elle ne veut pas que tu lui parles de ces choses-là. Donc maintenant, en t'évitant et en ne plus te parlant, elle va dire, Alhamdoulilah, donc celle-là, elle va me laisser tranquille. Non, Allah yahdiha, c'est tout ce qu'on dit. Attends, pour les cinq autres questions.
Amin. Donc je passe aux questions suivantes. Assalamu alaikum, cher. Hayakum Allah Azzawajal. En ce qui concerne les prières de Rawatib, j'aimerais savoir pour les 4 raka'a juste avant Salat al-Dhuhr, si l'on pouvait les avancer, car des fois je n'ai pas le temps de les faire juste avant Dhuhr. Barakallahu fikum, cher. Hafizakum Allah. Question suivante. Salam alaikum, une sœur pense que voiler son visage est obligatoire, mais en France, ça va être interdit dès lundi qui arrive. Comment doit-elle faire quand elle doit sortir pour Daroura? Elle ne peut pas faire la hijra et doit sortir quand même. Et quelle ruse pourrait-elle dire à la police? Là, pour la ruse de la police, c'est même pas la peine de chercher, ça serait impossible. Il n'y a pas de ruse à leur donner au kuffar, c'est pas la peine. Question suivante. Salam alaikum. Cher, je connais un kafir et j'ai rêvé qu'il diffusait la récitation du Coran à écouter. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Car à mon réveil, ça m'a vraiment touché. Ce n'était pas un rêve comme les autres. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, pouvez-vous expliquer que signifie l'attribut d'Allah As-Sitr? Est-il possible également, cher, de donner d'autres attributs et noms d'Allah et de les expliquer rapidement. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Quelle est la règle sur le fait de bouger l'index pendant le tashahhud dans la prière? Entre parenthèses, doit-on le bouger doucement, rapidement? De haut en bas. Barakallahu fikoum pour votre éclaircissement. Qu'Allah vous préserve. Tfadal cher.
Alhamdoulilah. Non, quand tu as lu, quand tu as lu, quand tu as lu la troisième question, ça parlait de d'un certain rêve, il y avait des coupures. J'ai pas entendu c'est quoi le rêve et c'est quoi la question. On dit la troisième. Et est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi la cinquième, Inch'Allah? Est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi la cinquième? Je ne l'ai pas noté pour répondre directement, mais maintenant j'ai oublié. Fadal.
La troisième. Cher, pouvez-vous me... Non, c'est pas celle-là. Cher, je connais un kafir et j'ai rêvé qu'il diffusait la récitation du Coran. Que cela signifie-t-il? Car à mon réveil, ça m'a vraiment touché. Ce n'était pas un rêve comme les autres. Et celle dont vous avez oublié, cher, c'est l'index avec le tashahhud. De haut en bas, est-ce que ça doit être lent ou rapide? Tfada, cher.
Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut. Alhamdulillah. Pour la première question qui a rapport avec les quatre rawatib. Tayyib, les quatre rawatib qui sont avant notre bord, on ne peut pas les faire si le soleil n'a pas quitté le zénith, si ce n'est pas le moment du bord. Ce n'est pas important que ça soit le adhan du dhuhr ou pas. Comme en Algérie, par exemple, le adhan, il reste à peu près 20 minutes après le zénith pour qu'il fasse le adhan. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est le moment du dhuhr ou ce n'est pas? Et comment savoir que c'est le dhuhr? Il faut que le soleil ait quitté le zénith, le milieu du ciel. Donc, si le soleil a quitté le zénith, je peux déjà faire les quatre rak'at qui sont avant le dhuhr. Pour la personne qui ne peut pas les avancer, elle peut quoi? Elle peut les rattraper après Salatul Dhuhr. Elle peut les rattraper après Salatul Dhuhr. Sinon, elle ne peut pas. Si c'est après l'Asr ou après le Maghrib ou là, c'est trop tard et elle sera excusée. Allah Ta'ala voit qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Si c'est que c'est une personne qui voulait les faire, et que l'arabe n'y a pas comment, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner les récompenses de l'intention. Les récompenses de l'intention. Sinon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut les rattraper après Salatullah bi'idhnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, comment se voit les. Comment faire avec la personne qui prend que ce voile est obligatoire? Elle a pris cet avis. Comment faire maintenant? Franchement, pour dire la vérité, je ne sais pas exactement. Wallah, je ne sais pas comment va être, yani, la situation après qu'ils vont commencer à appliquer la loi. Et je m'attends, Wallah subhanahu wa ta'ala, que peut-être il va y avoir une fatwa des grands savants. Je suis sûr que ça va devenir tellement difficile que peut-être que les savants donneront, Inch'Allah Ta'ala, une fatwa pour comment faire. Non, on va attendre, Inch'Allah Ta'ala, ce que vont dire les savants, bi'idhnillahi Ta'ala. On vous demande si c'est avant ou après le adhan pour les rawatib. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Pour ceux qui n'ont pas compris. En général, je ne sais pas d'abord en France si c'est comme en Algérie, mais je vous dis comment ça se passe en Algérie. En Algérie, le adhan, écoutez bien, le adhan du dhuhr, c'est à 13h20. 13h20. Mais le dhuhr lui-même, le soleil quitte le zénith vers 13h05 minutes. Des fois vers 13h et des fois vers 12h50. Ça dépend des périodes. Ça y est. Maintenant, le adhan, c'est à 13h20, adhan du dhuhr. Moi, je ne vais pas attendre le adhan du dhuhr, puisque le dhuhr en Algérie, c'est à 13h05. Le zénith, le soleil quitte le zénith à 13h05. Donc, à 13h05, déjà, pendant cette période, je peux faire les quatre rawatib. Je n'attends pas le adhan. Mais maintenant, en France, si le adhan, il appelle vraiment, yani, veut dire que c'est le dhuhr même s'il n'y a pas d'adhan ou même si j'entends pas d'adhan. Pour la troisième question, pour le rêve du kafir sira, il n'y a rien d'étonnant bi-idhnahi subhanahu wa ta'ala en ce rêve. Non. Surtout que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala allait faire triompher cette religion avec l'homme qui était pervers ou l'homme qui était kafir. Donc ce n'est pas étonnant que quelqu'un qui soit pervers, qui soit contre la religion, qui soit kafir, qui, sans le vouloir même, qui peut-être qu'il fera des efforts dans le sens de la le sens de la propagation de cet islam bi-idhnillah, la propagande de cet islam bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ça peut être aussi un bon signe que tel kafir qu'elle a vu dans le songe, que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va le guider et qu'il va devenir un prêcheur et quelqu'un qui fait la prédication et le prêche à l'islam bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. La quatrième question. La quatrième question, je l'ai mal notée. Est-ce que tu peux me dire, Mouslim, c'est quoi la quatrième question? J'écris ici, j'ai écrit satin ou la matin ou là, quelque chose comme ça. C'est quoi exactement? Attribut, non, ça. J'ai écrit satir. Non. Donc la personne avait dit si satir. Si satir, et Annie faisait partie des noms de l'Allah ou des attributs. La réponse, non. Il n'y a pas en arabe satir, mais il y a sitir, comme ça, sitir. C'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent quand elle va tomber ou là, quelque chose se casse ou là, elle dit yastar. Alors qu'en fait, elle devait dire yasitir, pas yastar. Elle devait dire yasitir. Donc, sitir, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est aussi un attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, sitir, yuhib sitr. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sitir, qu'est-ce que ça veut dire sitir? Sitir, c'est que quelqu'un qui cache. Qui cache, yani ne dévoile pas, sitir. Allah Ta'ala, yani, tu fais des péchés et il les cache, il ne les montre pas. Non. Et il a dit dans le hadith authentique que, rapporté par muslim, que quiconque, que Allah subhanahu wa ta'ala ne le dévoile pas. Dans cette vie, il ne le dévoilera pas aussi dans l'au-delà. Pourquoi? Car Allah Ta'ala, c'est un sitir. Et il aime sitr. Il aime, yani, les choses qui sont cachées. Il aime, par exemple, qu'on cache notre aura. Nous, les hommes et les femmes, Allah Ta'ala aime qu'on cache nos auras. Si on fait des péchés, Allah Ta'ala aime que ces péchés soient cachés. Et d'ailleurs, lui-même, Allah Ta'ala nous cache ses péchés, même surtout pour la personne qui s'est seulement trompé ou qui a fait la tawba, bi'idhnillah ta'ala. Enfin, pour l'index, quand quelqu'un fait la salat, qu'est-ce qu'il doit faire de son index quand il fait le teshahhud? Qu'est-ce qu'il doit faire de son index? D'abord, il doit le pointer vers la qibla. Premièrement, il pointe son index vers la qibla. Ce n'est pas comme certains qui, lorsqu'ils arrivent au teshahhud, ils ne lèvent pas le doigt du tout. Ils laissent les doigts comme ça, yani vers le bas, et ils disent tahiyatullah, zakiyatullah, comme ça. Mais la sunna, c'est de pointer le doigt vers la qibla, comme l'a bien montré Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre, Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est premièrement. On pointe l'index vers la qibla. Deuxièmement, on le fait bouger du haut vers le bas. Mais yani, d'une façon vraiment, vraiment, vraiment petite. Au point où yani, on ne voit même pas qu'il est en train de monter du haut vers le bas si on ne s'approche pas de la personne. Non. Ce n'est pas comme les gens yani, qui font bouger comme ça et on voit de loin qu'ils le bougent du haut vers le bas. Ou bien, il y en a d'autres qui font le tour. Qui font le tour avec le droit. Avec leurs doigts, un tour comme des cercles, des petits cercles. Tu vas lui dire pourquoi il te dit par exemple, mon doigt est en train de tourner comme on tourne autour de la Kaaba. Comme on tourne autour de la Kaaba, il fait aussi tourner comme ça son doigt. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait la prière devant quelqu'un qui faisait comme ça. Et je me suis dit, dans mon cœur, je me suis dit que sûrement il doit se dire que, et comme on fait le tawaf autour de la Kaaba, on doit le faire aussi avec le doigt. Mais, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahmahoullah, et des gens qui ont vu Cheikh Al-Albani comment il faisait la prière, ils ont dit que on pointe le doigt vers la Qibla, comme a dit le prophète Aslam. Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Qu'il pointait son doigt vers la Qibla, et qu'il le faisait bouger. Comment qu'on le fait bouger? De haut vers le bas, mais juste un peu, à peine visible. Et si on voit bien, yani, si on ne voit pas bien le doigt de celui qui fait ça, on croit que son doigt n'est pas en train de bouger. Vraiment, c'est à peine. C'est à peine. Non. Et troisièmement, quand on fait cette chose-là, on doit regarder son doigt. Ce n'est pas on regarde la Qibla ou là on regarde ailleurs. Mais on regarde notre doigt et en même temps, yani, on le surveille pour que, yani, on ne fasse pas beaucoup bouger. Surtout quand on est distrait. Quand on fait tahiyya, tahiyyat la, zakiyyat la, et qu'on pense à d'autres choses, on s'oublie. On le fait bouger vite, de gauche à droite, à fin. Fait monter, descendre, monter, descendre, parce qu'on est distrait. Mais quand on se surveille, et puisque la sunna c'est de le regarder, donc on va le bouger juste un peu. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a aussi dans le doigt? Et naam. Enfin, dans le doigt, qu'est-ce qu'il y a? Depuis qu'on commence tahiyya, on ne va pas s'arrêter de le pointer, de le faire bouger et de le regarder jusqu'à ce qu'on arrête pour dire salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum. Pourquoi je dis comme ça? Car il y a certaines personnes qui ne le font pas bouger jusqu'à ce qu'ils arrivent à Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Rasulullah. Alors ils le pointent, ensuite ils le descendent. Mais nous on dit non, ça c'est bid'a. On le pointe et on le fait bouger, on le regarde du début du tashahhud jusqu'à la fin du tashahhud, jusqu'à ce qu'on dise salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Muslim, dis-moi si c'est compris. Dis-moi si c'est compris.
Non, cher, Barakallah comme c'est bien compris. Par contre, j'ai juste une chose à vous demander, cher, qui n'a rien à voir, bien sûr, par rapport au cours de ce soir, lorsque vous êtes parti au Jama'a tout à l'heure, pour Salat al-Aïcha. Vous aviez dit avant, quand vous reviendrez, vous nous direz encore deux, trois points avant de débuter les questions-réponses. Lorsque vous avez débuté les questions-réponses ce soir, je ne vous ai pas coupé, car je me suis dit certainement, comme il est un peu tard, vous préférez commencer les questions. Et pas faire les 2-3 points que vous vouliez aborder. Donc je voulais savoir si c'était volontaire et que vous allez faire ça samedi ou là c'était involontaire et vous avez oublié de faire les 2-3 points. Tfadashir.
Naam, barakallahu fik, c'était volontaire. Et j'ai pensé exactement comme tu as pensé toi. J'ai dit maintenant je suis venu en retard. Et avant de la mosquée, je suis allé faire des achats. Je suis allé ensuite pour revenir à la maison. Donc j'ai dit c'est un peu tard. Et en même temps, j'ai dit ce sera une occasion pour refaire aussi un deuxième cours, inshallah ta'ala, sur les rites des funérailles pour samedi prochain, inshallah, azzawajal. Donc d'ici samedi. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et vous préserve, et que Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs et nous aide et yani, nous augmente dans la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.